Rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours à Arras, à l'invitation de l'association Au Secours 62. Et nous écoutons toujours Christophe Lim, le président de l'association France Eau Publique, hein, qui est élu à Besançon et qui gère l'eau sur cette commune. Nous continuons notre enregistrement de notre émission Remue-Ménage sur la web radio du bassin minier.
S'il vous plaît.
Oui.
Vous avez évoqué le cas de Sochaux et Besançon, vous êtes dans l'est de la France. Enfin, je pense que vous avez aussi une expertise nationale. Est-ce que cette volonté de pédagogie que vous avez exprimée clairement, est-ce qu'elle peut, à votre avis, se vivre partout je pense au Pas-de-Calais, où justement où on est en zone de grande monoculture, et où on a parfois affaire, alors que je parle pour moi, les personnes avec qui je suis associé dans des démarches de changement, on a parfois affaire à des réactions brutales, des incompréhensions brutales parce qu'on nous accuse d'être passéiste, et, alors qu'on voudrait aussi faire comprendre à la population qu'on peut imaginer d'autres emplois parce que si on ne pollue pas l'eau, et prenons l'exemple de Munich, on ne paye pas le besoin de la traiter.
Bien sûr. Je pense qu'il faut, alors, souvent, pollution, agriculteur, on va se la faire rapide, comme ça sera plus simple. Vaut mieux qu'on dise les choses.
Il
faut qu'on dise les choses. Oui, non, mais voilà,
mais
on sait que souvent, ceux qui sont les principaux incriminés sont les agriculteurs avec une agriculture intensive. Moi, chez nous, un peu moins, parce que comme on a beaucoup d'AOC, on a déjà une agriculture depuis des années qui a été plutôt raisonnée, etc. Donc, on n'est pas dans la monoculture comme vous pouvez avoir par rapport à ici. Moi, je veux dire, la première fois que j'ai été élu, au bout de 2 ans, je suis allé rencontrer le président de la Chambre d'agriculture. Je pense qu'il a eu l'impression d'avoir un ovni qui arrivait en face de lui, quand j'ai parlé qu'il fallait qu'on travaille ensemble, quoi. Vous voyez, en plus, on discutait de politique, j'avais tout pour l'énerver, quand même. Et au fur et à mesure, on a travaillé ensemble. C'est-à-dire que, quelque part, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on travaille ensemble. Ils ont des intérêts, ils ont des contraintes. Moi, je vais vous dire, je connais de plus en plus, je suis d'origine des milieux de paysans, mais je ne les côtoyais plus depuis un moment et je les côtoie aujourd'hui. Et je pense que ceux qui se polluent le plus et qui s'asphyxient le plus, c'est déjà les agriculteurs. C'est-à-dire que quand ils mettent des produits polluants, c'est ceux qui sont sur les tracteurs, avec les pulvérisateurs derrière, et les premiers à en souffrir, c'est eux. Quand vous commencez à discuter avec eux par rapport à ça en disant « on va travailler ensemble pour essayer d'éviter un certain nombre de choses », c'est déjà de partir en disant « c'est vous qu'on va déjà commencer à protéger ». Et pour vous donner un exemple, il y a 6 mois, la Chambre d'agriculture m'a invité en séance en Assemblée générale pour que je parle de ce qu'on avait réalisé ensemble. Donc je pense que le monde agricole, alors ça dépend des endroits, ça dépend des cultures, ça dépend, voilà, c'est sûrement plus simple chez nous que d'autres, mais je pense qu'il faut qu'on pousse avec les agriculteurs dans ce débat-là pour pouvoir traiter un certain nombre de problèmes. Mais n'évitons pas les autres, et chaque fois qu'on réunit sur ce type de thème-là, on réunit tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut surtout éviter de les stigmatiser. C'est-à-dire que moi, quand je vais parler des protections, j'ai mis RFF autour de la table. Vous savez, quand RFF, je ne sais pas, on parle beaucoup des agriculteurs, mais vous avez déjà vu, il y a 10 ans, les lignes de chemin de fer, savoir s'il y avait un bout d'herbe qui poussait entre deux rails, c'était nickel. Hein. Ah, c'était propre. Hein. Vous savez, ils passaient avec la pompe, la locomotive devant, la citerne derrière, et ils ouvraient de chaque côté, ce qui fait que pendant 2 ans ou 3 ans, ça ne repoussait pas, hein. Il n'y a rien qui repoussait. Mais je peux vous dire que ça descendait au fond, quoi. Donc voilà, quand vous mettez RFF, quand vous mettez les agriculteurs, quand vous mettez les maires des communes, puis que vous leur dites demain, c'est fini, on ne met plus de désherbant sur votre commune. Il faut qu'ils aillent voir leur collectivité, hein. Il faut qu'ils aillent voir, y compris leurs habitants, qui étaient habitués à ce que vous savez, le chemin qui était net, qui était propre, etc. D'un seul coup, quand l'air va pousser, il ne va plus être propre. Et oui, dans notre image, c'est l'air pousse, donc ce n'est pas propre. Alors, je ne vous parle pas des cimetières. Pour les élus, essayez de ne pas désherber dans les cimetières. Celle-là, quand vous avez fait ça, vous avez réglé tous les problèmes. Hein, parce que la moindre herbe qui pousse dans les cimetières, on considère qu'on ne respecte pas ceux qui sont là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'il faut qu'on culpabilise personne, qu'on travaille tous ensemble et en disant, voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Et je pense qu'on est en capacité de pouvoir le faire. Ça demande du dialogue, ça demande du débat. On n'est peut-être plus dans une société de débat et de dialogue, mais il faudrait peut-être qu'on s'y remette un peu, hein, qu'on se cause un peu ensemble de temps en temps. Ce serait pas mal. Le retour en régie a certainement un coût, oui. Quel conseil pouvez-vous nous donner pour minimiser ce coût? Par exemple, la mise en commun des moyens inter-régie. Oui. La taille, ça n'a pas été posé, la taille des collectivités, je pense qu'il faut trouver la bonne taille. Hein, moi, je suis pas... j'ai pas de taille prédéfinie. Je pense que ça se vit en fonction de vos localités, de vos lieux de vie, de vos ressources. On ne travaille pas de la même façon au milieu des Alpes avec une collectivité qui a sa ressource qui est extraordinaire et qui a une alimentation sans aucun problème et qui peut vivre avec sa petite commune d'une façon normale et qui le jour va faire une interconnexion, hein, quand il faut passer le col pour aller chercher l'eau qui est dans le village d'à côté, vous imaginez les millions que ça coûte, donc ça c'est inutile. D'autres collectivités qui doivent être avec des problèmes d'alimentation, elles doivent s'interconnecter à minima, elles doivent pouvoir se secourir sur un certain nombre de choses. Et cette taille, ben, vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être aux élus, aux usagers de déterminer la taille de cette collectivité. En tout cas, si on vient à s'agrandir, on peut s'agrandir pour pouvoir mutualiser les aspects techniques. Ne mutualisez pas les aspects politiques de la relation avec les citoyens. C'est-à-dire que les grosses structures qui monopolisent et qui sont éloignées des citoyens, on ne va pas recréer ce que j'ai reproché aux opérateurs privés. Hein, je vous avais tout à l'heure, j'ai parlé de la liaison avec les gens, etc., etc., etc. Je vais vous donner un exemple. On a le syndicat du Bas-Rhin, qui s'appelle le SDEA, qui couvre pratiquement maintenant l'intégralité du Bas-Rhin, qui a centralisé ses aspects techniques, ses ingénieurs. C'est-à-dire que là, oui, on a une force de frappe, parce qu'on ne peut pas se payer un ingénieur dans chaque commune qui fait 500 habitants. Ce n'est pas possible. Mais eux, ils ont mutualisé les aspects techniques. Ils ont laissé les opérateurs en proximité, hein, les fontainiers, la relation avec les clients, enfin les usagers, etc. Et surtout, ils ont laissé des commissions de décision des élus en termes de proximité. Voilà, je pense qu'il faut qu'on invente des choses. Je veux dire, il faut qu'on arrête de se calquer sur quelques énarques qui nous ont dit que tout devait se faire à Paris, que les grandes régions, machin, tout fait bidule, tout le monde était centralisé. On peut peut-être centraliser un certain nombre de choses, mais laissons décentraliser le lien avec la population, quoi. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on y travaille. Sur les aspects de coûts, oui, il y a un moment, il y a un investissement à faire au début. Alors là aussi, je vais être provocateur. Si vous revenez en régie, je vous déconseille de baisser le prix. Je vous déconseille de baisser le prix. Parce que la principale chose que vous demandez des usagers, c'est baisser le coût. Hein, c'est la première chose qu'on vous dit. Et demain, combien on va gagner? Allez, on va faire 10% de moins, 20% de moins. Déjà, vous ne savez pas ce que vous allez récupérer dans votre réseau. Vous ne le savez pas. Vous allez découvrir un certain nombre de choses. Puisque comme souvent, vous n'avez pas trop suivi votre délégation de service public, les taux de rendement, les machins, etc., etc., il y a des choses que vous allez découvrir. Vous allez être mis dans les mains dans le cambouis, donc vous allez découvrir des choses, donc vous allez être obligé de faire des investissements. Parce que la pire des choses, c'est de baisser de 10%, et puis au bout de 2 ans de régie, de les augmenter de 20%. Hein. Je ne suis pas obligatoirement sûr que vous allez faire une unanimité chez vous par rapport à ça. Donc, première chose, on donne mon avis, hein, on ne bouge pas les tarifs, on se lance, ce qui fait que le besoin d'argent déjà, y compris pour acheter un peu de matériel, pour acheter un certain nombre de choses, pour pouvoir se lancer dans votre régie, vous aurez besoin de moyens pour pouvoir vous lancer. Et puis, vous investissez sur l'avenir. Parce que je vais vous donner un exemple. Vous avez une facture de 120 mètres cubes qui coûte 400 euros. Hein, c'est à peu près le chiffre. Vous avez plus de 20%, 20-25% de taxes là-dessus. Hein, la TVA, l'agence de l'eau, les machins, etc., etc., etc. Quand vous allez baisser hors taxe de 10% votre prix de l'eau, allez, vous allez faire gagner 20 euros, 30 euros à votre population. Hein, 30 euros pour certains, c'est important. J'y reviendrai hein, après dans la gestion sociale de l'eau. Hein. Pour une bonne partie des gens, je ne suis pas sûr que ça soit là le véritable gain. Le véritable gain, c'est le jour où vous achèterez plus de bouteilles en plastique et puis vous pourrez boire votre eau du robinet. Et là, les gains, c'est plus 30 euros. Hein. Aujourd'hui, une famille qui ne boit pas l'eau du robinet parce qu'il a un doute sur sa qualité, parce qu'on ne l'a pas rassuré, parce qu'on n'a pas mis les moyens de le lui certifier que la qualité d'eau qu'on allait distribuer au niveau du robinet était irréprochable. Ça lui coûte entre 500 et 800 euros par an. Entre 500 et 800 euros par an. Ça veut dire que le jour où vous avez fait votre régie, vous avez investi dans votre réseau, vous avez investi dans la qualité, vous avez investi dans la sécurisation sur un certain nombre de choses, vous faites économiser pas 30 euros, vous faites économiser entre 500 et 800 euros. Vous voyez ? Mais ça, c'est pas facile à faire comprendre, hein, parce que quand vous allez directement avec la population, la première des choses, c'est qu'ils vont vous demander les 30 euros tout de suite, quoi. Ce qui ne veut pas dire que sur la gestion sociale, vous pouvez faire des choses, hein. Il y a des dispositifs avec les premiers mètres cubes gratuits, il peut y avoir des dispositifs d'aide avec le FSL pour pouvoir accompagner des gens au niveau des coupures d'eau. Alors je rappelle quand même que les coupures d'eau sont interdites. Depuis la loi Brottes, il n'y a plus le droit de couper de l'eau pour impayé. C'est interdit. On n'engage pas le débat là-dessus parce que ça va être un peu chaud. Mais c'est interdit. Hein? Donc ça veut dire qu'on ne peut plus couper l'eau aujourd'hui. On considère que c'est un bien indispensable du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas comme l'électricité et le gaz. Hein? On peut faire des actions d'accompagnement social sur le dispositif. Puis je termine parce que nous, on a mené des actions aujourd'hui. On a entre 85 et 90% de la population qui dit boire pratiquement que de l'eau du robinet. Alors quand on est parti au début, on s'est dit mais pourquoi les gens, ils ont une qualité d'eau impeccable. Ils payent 3 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois plus cher le prix de l'eau. Ils n'ont pas, hein, parce que quand vous allez chercher des bouteilles d'eau, hein, vous avez remarqué, vous allez prenez déjà le caddie. Vous allez dans le supermarché, vous prenez les bouteilles d'eau, vous les mettez dans le caddie. Vous arrivez maintenant, le caddie, alors maintenant vous ne les sortez plus sur les pêches, hein, mais vous les mettez sur machin pour les faire payer, vous sortez de la maison, vous les mettez dans la voiture, vous les sortez de la voiture, vous les mettez à la cave, vous les mettez à la cave, vous les mettez à la maison, vous les mettez à la maison, vous les mettez à la poubelle, vous les mettez à la poubelle, vous sortez de la poubelle. La seule chose que vous avez fait, c'est que vous avez fait un peu de gymnastique, ça c'est bien, c'est pas mal pour la santé. Alors que vous ouvrez le robinet, vous mettez votre carafe en dessous et c'est réglé le problème. Il faut déjà être un peu tordu pour aller chercher la même qualité d'eau quand même. Hein. Hein. Vous payez 100 fois plus cher une eau que vous avez sur le robinet. Et bien nous, ce qu'on a fait, on a donné un nom à notre eau, parce qu'on s'est aperçu que quand les gens ils achetaient des bouteilles d'eau, ils achetaient une qualité, et derrière le mot de la marque, ils achetaient une qualité. Puis vous remarquez que quand vous allez à l'étranger, la première chose que vous demandez, c'est le petit clips, vous savez, quand vous allez dans un restaurant pour être sûr de ne pas vous faire arnaquer pour qu'ils vous aient rempli l'eau à l'intérieur de votre bouteille, vous demandez à ce qu'ils vous l'ouvrent devant vous. Ben vous savez, le petit truc comme ça, c'est une synonyme de qualité. Et ben nous, on a appelé notre eau, on l'a appelé la Byzantine, hein, on n'a pas fait grand-chose d'extraordinaire. Hein. Et ben vous savez que depuis, les gens ils ne boivent plus de l'eau du robinet, ils boivent de la Byzantine. Et puis maintenant, ils la boivent plus facilement. Et c'est la même qu'avant. Et c'est quand même étonnant. Donc on fait du marketing. Et bien, je m'amuse là-dessus, c'est mon petit quart d'heure, 5 minutes, ça va. Vous avez remarqué quand même que vous regarderez les publicités d'eau. Jamais ils parlent de l'eau. Ils ne parlent pas d'eau. Ils vous parlent que vous allez être en forme, que vous allez pouvoir courir. Quand vous faites de la Volvic, vous pouvez courir. Je vous rassure tout de suite, buvez de l'eau du robinet, vous pouvez courir aussi. Ils vous font, les gens, c'est extraordinaire. C'est les bébés qui sautent dans l'eau, là. Elles sont superbes, hein. Mais ils vous parlent jamais de la qualité d'eau. Hein. Ils vous parlent jamais de la qualité d'eau. Ils veulent pas vous parler de la qualité d'eau, c'est la même que la vôtre. À part quelques endroits sur lesquels il faut travailler sur un certain nombre de choses, hein. Mais globalement, voilà, l'économie, elle se situe plutôt par rapport à ça.
Oui, il y a une petite bouteille d'eau là, mais il n'y a pas de clip. Et c'est de l'eau du robinet.
Oui, je disais des problèmes d'eau qu'on ne règle pas forcément rapidement aussi. C'est ça, c'est là où peut-être...
Oui, c'est la gestion. C'est la gestion à long terme. Hein. Ouais, souvent, l'autre point, on nous dit, oui, mais quand on s'engage à une régie, on ne peut pas revenir sur la décision. C'est pas vrai. Vous pouvez prendre la décision d'une régie, si dans 2 ans vous n'êtes pas satisfait, vous refaites une délégation de service public. Délégation de service public, 6 mois pour la faire. 6 mois pour faire un contrat. 6 mois, je vous fais un contrat. Quand vous êtes passé avec un contrat sur 12 ans, vous ne le cassez plus pendant 12 ans. Donc je considère que la régie est plus souple que la délégation de service public. Donc, permet plus d'intervention de la part des élus. Quand vous avez signé un contrat, vous l'avez signé pendant 12 ans. Quand vous signez un contrat avec une régie, vous le signez et il est révocable du jour au lendemain.
Y a-t-il beaucoup de passages dans ce sens-là ?
Il y a un passage au-dessus de Toulouse. On a eu un retour de gestion publique en gestion privée, c'est tout. On en a très très peu dans ce sens-là. Voilà, mais on ne téléphone pas tous les jours.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, je ne sais pas, plus précisément sur la communauté urbaine. Ou est-ce que, je ne sais pas, vous voulez que je relise l'argumentaire qui est à la base du choix? Je le relis? Oui.
C'est une question peut-être un peu diffuse, mais donc vous êtes élu, je pense que c'est quasiment un travail de militant que vous faites au sein de l'association France au public. J'ai l'impression que la plus grande difficulté qu'on a quand on rencontre des élus ou quand on discute avec des usagers, c'est de leur faire comprendre l'enjeu de l'eau. Et avec des élus, ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'ils considèrent que effectivement, c'est forcément un problème de délégation parce que sinon c'est beaucoup trop compliqué. Et puis que sinon, c'est un gros problème de société, parce que de toute façon, on n'aura plus d'élus, parce qu'il n'y a plus personne qui voudra le faire. Bon, c'est quand même une question de fond, mais qu'on retrouve plus ou moins directement dans les discussions qu'on a avec vous. Et vous avez dit vous-même, en fait, le problème de l'eau, c'est oui, il y a pas mal de questions. Un des éléments de réponse, c'est évidemment de s'entourer avec des techniciens, des ingénieurs. De c'est encore pire avec l'urbanisme, alors on est en contact. Comment avec ce travail avec France au public, est-ce que vous avez au sein des élus qui s'investissent là-dedans un élan positif ou un écho?
On a deux types d'élus. Là aussi, je vais faire caricatural pour avancer. Des élus qui nous disent c'est pas possible et ils le pensent foncièrement. Je pense qu'il y a des élus, déjà d'une façon générale, je vais vous le dire, je considère que les élus sont généralement honnêtes. Je le dis comme ça parce que je commence à en avoir un peu plein d'eau qu'on considère que parce qu'il y a deux, trois malveillants, que tous les élus sont des malveillants. Ça, c'est mon avis, parce que faut quand même pas déconner quand même, on passe des heures. Vous voyez, moi, j'étais au boulot encore ce matin jusqu'à 10h. Donc j'ai pas l'impression de voler ni mon entreprise, ni ma délégation ou mon indemnité. Donc il y a une grande partie des élus, je pense qu'il y a des élus qui sont inquiets. Il faut les rassurer. C'est-à-dire que quelque part à partir de là, c'est pour ça qu'on leur propose l'expertise de fait. Et moi, la première des choses qu'on fait, c'est-à-dire une collectivité qui va vouloir revenir en régie, on va la coller à une autre régie qui lui ressemble. Et une collectivité qui lui ressemble. Je vais prendre votre exemple, vous avez 100 000 habitants, votre président... Communauté urbaine décide de revenir en régie, on le colle à Besançon. Donc les élus vont se rencontrer. C'est-à-dire qu'on va déjà dire aux élus de votre communauté urbaine, venez à Besançon, venez voir comment ça marche. Voilà. Et on va faire venir aussi les services techniques. Parce que les services techniques, ils ont aussi la trouille. Quand vous avez un directeur général des services qui, pour l'instant, négocie le contrat en délégation de service public, et puis du jour au lendemain, on lui dit... tu vas reprendre 40 ou 50 personnels, c'est toi qui vas gérer le truc, c'est toi qui vas gérer les investissements, c'est toi qui vas gérer l'approvisionnement, le machin, etc. etc. En ce moment, en plus, comme on lui dit en même temps, on va te supprimer 50 postes ou 30 postes ou 20 postes, le directeur général des services, il dit « Oh lolololol, moi j'ai déjà bien assez à faire avec ce que j'ai. Voilà. » Donc il faut rassurer les services, rassurer les élus et faire le lien avec une collectivité qui leur ressemble. Voilà, je pense que ça c'est important parce que c'est la seule façon de... Et puis il y en a des autres qui ne veulent pas le faire pour des raisons diverses et variées, soit d'idéologie, soit je sais pas quoi moi. Donc faisons attention, moi je rassure les premiers, les deux autres, c'est un débat. Voilà. Et puis c'est la population qui tranche, hein, me semble bien. Je crois encore un peu à la démocratie même quand il y a 50% d'abstention. Je me désole.
Pour prolonger la question, pour vous, quelles sont les étapes justement dans la préparation de la construction d'une régie? Parce que c'est pareil, on imagine bien que la collectivité ne peut pas se dire « Allez, voilà, j'embauche ou je débauche les 50 ou 60 ouvriers de délégataires et puis voilà, on travaille ensemble à préparer. » Donc il va y avoir des différentes étapes. Quelles sont-elles?
Il faut engager alors un débat avec le délégataire. vous avez un délégataire, donc il faut engager le débat avec lui. Quand vous avez pris la décision politique, il faut. Alors moi j'ai rencontré le patron, c'est pas votre patron, c'est le patron de la Lyonnaise qui a demandé à me rencontrer la semaine dernière. Moi je lui ai dit, dans les deux sens, on a tout intérêt à ce que ça se passe bien. Alors il dit oui, mais c'est facile pour vous parce que pour l'instant ça va dans l'autre sens. Je dis, vous savez, l'histoire, elle n'est pas si, hein, pas si écrite d'avance. Je dis, on a tout intérêt pour nos collectivités, comme pour les salariés que vous représentez, et n'importe où, que ça se passe bien. Voilà. Il faut qu'on ait une négociation, il faut engager la négociation avec le délégataire, en lui disant, voilà, on a décidé d'un retour en régie, il va falloir gérer la transmission des informations, il va falloir transférer le fichier des clients, il va falloir transférer la connaissance du réseau, il va falloir transférer le personnel. Et puis en plus, parce que c'est ce que j'ai dit au patron de la Lyonnaise, on ne va pas arrêter de travailler avec ces entreprises. Moi, je suis en régie, je travaille avec ces entreprises. Je viens de rénover, on est en train de rénover une station d'eau, je ne vais pas embaucher 5 ingénieurs pour rénover une station d'eau pendant un an et demi. Donc, j'utilise la capacité, les connaissances de ces entreprises-là, parce qu'elles ont des capacités et des connaissances sur un certain nombre de points, pour que sur des aspects précis, on puisse répondre à la besoin. Sauf que c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis le process, c'est moi qui choisis le délai, celui qui va faire l'entreprise, et c'est moi qui négocie le tarif. C'est pas la même chose. Et donc, on négocie en connaissance de cause. Donc, voilà, je pense que la première des choses, c'est de travailler, y compris le délégataire, vous pouvez continuer à lui confier des activités. Si vous ne vous sentez pas capable au départ, bon, vous reprenez en régie, vous voyez qu'il y a un élément, vous avez une station de traitement des eaux usées, qui vous semble complexe. Hein, vous dites... Allez, mettre des tuyaux, faire des branchements, du relevé, faire du dépannage de réseau. Globalement, les entreprises de travaux publics, elles savent faire ça. Tout ça, sur la technicité, eh ben vous revenez en régie, vous repassez un marché. Vous repassez un marché. Donc cette entreprise-là, si ça s'est bien passé dans le cadre du retour en régie et que vous avez repris une partie des activités... Ben vous aurez plutôt un œil un peu plus favorable à la regarder quand elle répondra à l'appel d'offres plutôt que celle qui vous a emmerdé pendant 2 ans. Parce que je vais vous dire, moi, celle qui m'emmerde, elle ne va plus avoir de marché. Alors, il y a la contrainte des appels d'offres, etc., etc. Mais bien d'accord, mais j'y verrai d'un mauvais œil. Je respecterai le droit, je respecterai tout un certain nombre de choses, mais je m'en souviendrai quand même. Donc, on a tout intérêt à travailler en intelligence avec ça. Donc, de préparer. Donc, renforcer au fur et à mesure son pôle à l'intérieur de sa structure publique, contrôler la délégation de services publics, contrôler les investissements qui ont été réalisés, apprendre à connaître son réseau, en même temps engager la négociation avec l'opérateur pour que ça se passe le mieux possible, et puis après on travaille en bonne intelligence aussi. Hein ? Est-ce que j'ai répondu
Non, vous êtes allé un peu vite, ah. Parce que vous avez répondu à partir du moment où la décision était prise.
Ah, alors, d'accord, la décision politique.
Oui.
Oui. Mais il y aurait l'étape avant, c'est-à-dire que voilà, pour pouvoir prendre cette décision qui est si difficile, hein, on en parle depuis tout à l'heure, est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, pour pouvoir justement instruire ce dossier, préparer cette hypothèse, mettre en place, je ne vais pas dire une commission, mais je ne sais pas, un petit pôle de gens qui travailleraient justement à voir comment ça pourrait se faire.
Il y a deux choses. Soit il y a une volonté politique.
Voilà.
Et volonté politique avec un grand P. Ah, je vous le fais, Estrosi, ça me fait rire, Estrosi. Parce qu'en plus, je travaille très bien avec le vice-président de l'agglo de Montpellier. Estrosi a décidé de revenir à la métropole et il a pris la décision. Je ne raconterai pas comment ça s'est passé. Jean de Béolia savent très bien, plus vieux contrat de France, il a décidé que, terminé, c'était lui qui allait prendre, donc, décision politique. Voilà. S'il n'y a pas de décision politique, il faut que ça soit une décision citoyenne. C'est-à-dire que, quelque part, il faut que ça soit les citoyens qui s'en mêlent. Si vous considérez que vous êtes majoritaire, un moyen de pression important, est-ce que vous avez fait, je ne vais pas vous conseiller, parce que la première chose que je fais, quelque part, c'est que je vous dise, créer une association. Vous l'avez déjà fait. Vous faites une association, vous faites des réunions publiques comme ça, vous faites signer des pétitions, vous rencontrez les élus, vous actez un certain nombre de choses, à force, ça paye. Et je peux vous assurer, je vais ouvrir très rapidement le débat, mais très comme ça, que votre action paye, puisque j'en ai entendu parler jusqu'à Besançon la semaine dernière. Donc ne sous-estimez pas ce que vous faites. Parce que j'étais approché la semaine dernière en me demandant ce que j'allais faire à Arras. Je ne connais pas qui. Parce que bien sûr, on est suivi chaque fois qu'on intervient quelque part. Donc voilà, mon maire m'a demandé ce que j'allais faire à Arras. Vous voyez ? J'étais un peu surpris qu'il soit au courant, mais il y avait quelqu'un qui l'avait mis au courant. Donc voilà, l'action, ne sous-estimez pas votre action. Souvent, les milieux associatifs, on a discuté un petit peu tout à l'heure, vous me demandiez un petit peu ce que vous aviez fait. L'action citoyenne, ne sous-estimez pas votre action citoyenne. Même si ça vous semble minoritaire, même si ça vous semble pouvoir un certain nombre de choses, c'est ça qui fait bouger, c'est ça qui fait bouger les montagnes. Enfin, voilà. Donc ce que vous avez fait, il faut l'amplifier, y compris la décision aujourd'hui qui a été votée. Une autre décision peut la mettre en cause. Il me semble que votre comité urbain a décidé de lancer la procédure pour créer un cahier des charges. Une décision annule une autre décision. Rien n'est... y compris, vous pouvez négocier la diminution du temps de délégation de service public. Vous savez, quand on ne gagne pas une guerre, il faut déjà gagner une première bataille. Si vous évitez d'avoir un contrat de 9 ans, parce que je crois que ça doit être un contrat de 9 ans, il me semble qu'on a dû dire ça. Donc vous avez déjà gagné 3 ans par rapport à ce que vous... Ben, continuez. Mais oui, si vous voulez vous préparer en vous disant, ben voilà, ok, allez, on négocie, on se met autour d'une table et on fait un contrat de 3 ans, et puis au bout de 3 ans, on prépare véritablement. C'est une négociation, ça s'appelle ça. Et la négociation, elle se fait en fonction du rapport de force. Ça s'appelle le monde, ça. C'est encore pour quelques années.
Bon, je lis pour souffler un peu. Alors, avez-vous des contacts avec les associations de consommateurs sur ce sujet? Peut-on aller plus vite pour informer les usagers de l'eau grâce à eux? Donc, association de consommateurs.
Alors, oui, on a des contacts avec les associations de consommateurs. C'est un domaine qui revient assez régulièrement. La CLCV intervient régulièrement. L'autre aussi, là, qui vient de sortir, UFC Que Choisir, fait des analyses régulières sur les aspects tarifs, qualité, etc. Donc, nous, on a des contacts avec eux. Ils sont plus, dans un premier temps, dans la défense de l'intérêt de l'usager, ce qui est leur nature, plutôt que sur un choix de gestion. Vous voyez ce que je veux dire? Leur nature de la défense de l'association de consommateurs, c'est de défendre les consommateurs. Ce n'est pas de défendre la gestion publique. Ils sont payés pour ça. Enfin, payés. Souvent des bénévoles. Très souvent des bénévoles. Voilà. Mais... ils sortent régulièrement des études, la CSLV le fait régulièrement, sur les différences tarifaires, et eux, ils font l'analyse au titre des usagers en disant qu'est-ce qui se passe en délégation de service public et qu'est-ce qui se passe en gestion publique. Et là, en toute indépendance, c'est là qu'il y a 7-8, peut-être au moins 5-6 ans, ça va être la CSLV qui avait sorti une différence de 25 à 30%. Donc ils donnent une information, que choisir, c'était que choisir, je crois, donne une information au consommateur, à vous de vous déterminer par rapport à ça. Mais il ne souhaite pas, si possible, s'engager dans un débat très approfondi par rapport à ça, parce qu'ils nous le disent, nous, c'est aux élus de décider. Ils ont la même attitude, ils disent, c'est aux élus de décider, et aux usagers, qui sont les électeurs des élus. Ça semble bien jusqu'à maintenant. Voilà. Est-ce que j'ai à peu près répondu à la question? Mais on travaille fortement avec eux et il faut les mettre dans votre conseil d'administration. C'est ceux-là qui... Comment réagit le personnel du privé face à une gestion publique garantie d'emploi d'avantages financiers? J'ai beaucoup insisté là-dessus. On a eu beaucoup de réticences. Alors, c'est quelque chose... Moi, je suis de la fonction publique, donc je vais parler clair. J'étais persuadé que le monde idéal était dans la fonction publique. Et donc, je considérais que des gens qui quittaient la fonction publique pour aller dans le privé, c'était la catastrophe. Et je me disais que ceux qui revenaient de la gestion privée à la gestion publique, c'était le paradis. Sauf que ce n'est pas ça la réalité. Là, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ça la réalité. Un salarié, il a toujours peur du changement. C'est comme ça. Il a peur du changement. C'est une appréhension et c'est légitime. C'est légitime. Donc, le retour en gestion publique, eh bien, il dit, attends, mes primes, même salaire, mon travail, qui va être repris, etc., etc. Donc vous le mettez en situation d'incertitude. Vous mettez le personnel, si vous ne lui répondez pas à ses interrogations, vous le mettez en situation de stress. Comme n'importe quel citoyen, le salarié, quand il est stressé, il se défend. Et il se défend dans ce qu'il connaît. Et donc, il défend ce qu'il a. C'est légitime. On est à peu près tous comme ça. Hein. On réagit un peu tous comme ça. Donc, il faut véritablement travailler avec... très rapide. Ça, c'est vraiment... hein, le délégataire rencontré et tout de suite rencontrer les salariés, se faire connaître, engager une négociation. Ça me semble... Alors après, hein, je l'ai dit tout à l'heure, des garanties, hein, ils ont les mêmes garanties puisque la loi oblige à reprendre les salariés dans les mêmes garanties. Alors quand j'ai dit ça, hein, faisons attention parce qu'il y a quand même des négociations, il y a un certain nombre d'éléments. De temps en temps, certaines organisations syndicales en profitent pour demander plus. C'est légitime. Hein. Je suis un peu syndicaliste de temps en temps, donc je ne vais pas les reprocher. Voilà, donc vous engagez des négociations avec les organisations syndicales. Ça se passe plutôt bien. On a eu un ou deux exemples où ça s'est mal passé. Nous, on intervient fortement pour que ça se passe bien. C'est un élément déterminant dans le cadre de la réussite de la gestion publique. Hein? Ça se passe plutôt bien. Et là, je le dis aussi, parce que bon, je suis le délégataire ici, les délégataires ont beaucoup évolué par rapport à ça. Ils font beaucoup moins de pression juridique. C'est-à-dire qu'il y a 7-8 ans, le conseil municipal décidait de revenir en gestion publique, je lui disais tout de suite de prendre un avocat parce qu'il allait finir au tribunal. C'est moins le cas aujourd'hui, je le dis, hein, parce que je sais que vous êtes présents. Ça s'est beaucoup amélioré sur ce retour en gestion publique où on a très peu hein, maintenant à trancher au tribunal. Quoi. Enfin voilà, c'est quand même pas très. Enfin, pour les deux côtés, hein, c'est pas très glorieux. Quoi, hein. Et puis on évite de monter le personnel parce que ça on sait faire hein, aussi. Hein. On fait une équipe de direction, on réunit tout le monde et puis on dit que ça va être la catastrophe demain. Et puis vous vous retrouvez avec une manifestation devant votre conseil communautaire du personnel. Voilà. Ça arrive, non? Ça semble bien que ça arrive, ça. On doit avoir un peu de vécu, je crois. Donc il faut éviter ça. Mais c'est le dialogue. Depuis le début, je vous parle de dialogue.
Qu'est-ce qui fait que un délégataire pouvait déposer une plainte, hein, parce que ça serait un lien juridique, face à une collectivité? Collectivité qui décidait au bout du contrat de faire le choix de revenir en régie.
Alors des préjudices, alors souvent hein, c'était plutôt une pression. Hein. De tête, ils ont rarement gagné. Là où ils sont allés jusqu'au bout, c'était une pression. C'est-à-dire que voilà, c'était si vous faites ça, on va vous demander des indemnisations, on n'a pas tout amorti. Vous avez des problèmes parce que vous allez, si vous faites ça un jour et que vous retrouvez un contrat de 20 ans, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose dans le contrat de 20 ans. Hein. À qui appartient les compteurs? Hein? À qui appartient les tuyaux? Jusqu'où l'appartenance des choses? Et là, dans la négociation, vous allez vous amuser. Hein? Aujourd'hui, les contrats sont beaucoup plus clairs par rapport à ça. Mais voilà, l'appartenance d'un certain nombre de biens, est-ce qu'ils sont amortis? C'est-à-dire que si on considère que c'était le délégataire qui, pour une partie, avait fait les investissements sur telle ou telle opération, il pouvait considérer que lui, il n'avait pas fini, je vais revenir sur mes amortissements, il n'avait pas fini d'amortir, et il considérait qu'il perdait le contrat, ok, mais voilà, il fallait faire un chèque de temps pour pouvoir amortir, parce qu'il avait prévu que sa station, elle durait 20 ans ou 25 ans. Ça s'est beaucoup clarifié dans les contrats aujourd'hui, hein, ça c'est... et heureusement, hein, parce que quand on regarde des contrats d'il y a 20 ans ou 30 ans, même des grandes collectivités, hein, que ça soit les petites... alors, là aussi, hein, les petites collectivités étaient assistées de la DDA, Direction départementale de l'agriculture, sur tous les contrats. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de DDA. Hein, ça s'appelle la DDT et puis les suivis de contrats, c'est terminé. Hein. Ça veut dire que les collectivités aussi, ça, c'est un point de faiblesse. Les petites collectivités qui étaient assistées avec les services de l'État ne sont plus assistées avec les services de l'État. Ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. Hein. C'est-à-dire que les petites collectivités qui, jusqu'à maintenant, géraient... y compris l'eau, l'assainissement, un certain nombre de choses. C'était le trésorier qui leur faisait les factures, c'était le DDA qui leur faisait leur suivi de structure, et quelquefois le conseiller général qui les accompagnait dans l'aide aux communes. Les services de l'État, c'est pas très florissant, quoi. Hein? Donc voilà, ça amène aussi peut-être à ce que des collectivités se regroupent.
Oui. Oui, vas-y.
Donc, je suis Gérard Barbier de l'UFC Que Choisir. Ah. Je voulais d'abord vous remercier de ce que vous avez dit. Je n'aurais pas fait mieux. Donc, vous avez très bien présenté votre association, qui est une association de consommateurs. Votre rôle est d'essayer d'informer et d'aller même au-delà, d'expliciter un petit peu les choses, les enjeux importants que vous avez notés sur la consommation de l'eau. Notre association a été créée en 1951 et depuis, il n'est pas passé une seule année sans qu'il y ait un dossier ou sur le prix ou sur la qualité de l'eau. Voilà. Alors, ce gros dossier sur les 30%, je me souviens très bien, parce que c'était un énorme travail que nous avons fait expertiser et qui nous a valu énormément de menaces, de procès, etc. Et voilà, mais aucune menace n'a été exécutée. Et les 30% ont été réalisés depuis. Voilà, alors ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau local, Alain, qui est mon voisin, qui est l'animateur d'un groupe qui s'occupe de l'eau, qui travaille sur le Nord-Pas-de-Calais, a réalisé une petite plaquette pour à partir des factures d'eau des usagers, et pour essayer d'expliquer un petit peu comment tous les gens cette plaquette. Est à votre disposition. Pense qu'on a contribué aussi à expliciter la chose. En tout cas, merci pour votre intervention.
Et est-ce qu'il y en a, peut-être sur la table si les personnes.
Je vais les
D'accord. Trois petits points hein, par rapport toujours par rapport à l'argumentaire qui a été développé à la communauté urbaine. Le premier point, c'est ça concerne le tarif. Donc, pour garantir aux usagers un prix maîtrisé sur la période du contrat. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir des aléas importants, en régie publique, sur le tarif de l'eau hein, donc voilà la première. Bon, peut-être que...
Globalement, on ne peut pas avoir du jour au lendemain une augmentation catastrophique des tarifs, sauf si vous avez complètement sous-estimé vos tarifs, sauf si vous n'avez pas fait de l'investissement régulier. On n'en a pas causé aujourd'hui. Il faut savoir que d'une façon générale, on est à moins de 1% du renouvellement des réseaux. Ça veut dire qu'on considère que les réseaux peuvent tenir 100 ans. Hein, c'est aussi simple que ça. Il va y avoir des surprises, il va y avoir des réveils douloureux dans quelques temps, y compris avec des taux de fuite. C'est-à-dire que vous avez dégradation de votre réseau, donc vous avez augmentation des taux de fuite. Et puis à partir du 1er janvier 2016, ceux qui auront des taux de fuite qui seront trop importants auront des surtaxes à payer à l'agence de l'eau. Donc oui, il va y avoir tout de suite la pénalisation financière. Globalement, il n'y a pas des tonnes de surprises, je veux dire... Vous avez une station, vous avez une alimentation, il faut travailler sur la perspective, vous avez votre masse salariale, vous la connaissez, vous avez vos moteurs, vos pompes, quand vous avez payé l'énergie, d'abord vous prenez le compte-rendu du délégataire, vous prenez votre compte-rendu de délégataire, vous regardez toutes les dépenses, vous n'avez pas multiplié du jour au lendemain le personnel. Les prix de l'électricité, s'ils augmentent, ils augmenteront aussi pour le délégataire. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui seront complètement... Donc je ne vois pas ce qui peut amener à des dérapages financiers. Voilà. En tout cas, moi, en termes de gestion, on augmente... nous, on est à 2,85 € sur Besançon, tout compris. Donc vous voyez, donc on a, il y a longtemps qu'on a géré, parce que moi, quand je suis arrivé, j'avais des adjoints qui avaient aussi géré comme moi. Hein. J'ai toujours dit, je suis arrivé, j'avais les pieds dans les pantoufles chaudes, que d'autres avaient travaillé, parce que ça fait des années et des années qu'on travaille en disant on réinvestit, on fait un certain nombre de choses, hein. Ça ne tient pas qu'à moi. Hein. Donc je pense qu'il n'y a pas de risque par rapport à ça et à un contrôle de la collectivité. Donc je ne vois pas de risque de dérapage financier.
Oui, mais par exemple, est-ce qu'un délégataire peut cacher sur un besoin à court terme de réinvestissement ou sur un endroit où une partie de station, est-ce qu'elle est obligée de programmer ses investissements et est-ce qu'elle peut cacher le fait qu'il faudrait investir et du coup La surprise est pour les...
Logiquement, les investissements restent sous la responsabilité de l'élu. Hein. Le délégataire ne fait que le fonctionnement. Ah, je le dis comme ça, hein, c'est pas si clair que ça, mais fait que le fonctionnement. Il fait que le fonctionnement, le délégataire. Hein. C'est vous qui continuez à investir. C'est la collectivité qui investit hein, en délégation de services publics.
Le délégataire est censé faire remonter l'information.
J'ai entendu ce que j'ai dit, que la première des choses à faire dans les deux ans, c'était déjà de surveiller son délégataire. Bon, c'est comme ça. Et c'est normal. En plus, c'est le délégataire le demande. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que un bon fermier, c'est un bon délégataire. C'est ce que me disent les dirigeants des deux entreprises. Voilà, ils veulent avoir voilà, des gens qui surveillent. Attendez, quand vous allez chez le garagiste, de temps en temps, il vous donne un certain nombre de choses, mais c'est surtout à vous de savoir comment fonctionne un peu la voiture. Hein, quand il y a des choses qui font un peu de bruit, quand vous n'allez pas faire votre entretien tous les 20 000 ou 30 000, enfin, etc. Voilà, il y a quand même une certaine responsabilité. Moi, je ne dégage pas les responsabilités des élus. Voilà, il ne faut pas... Hein. Donc, il n'y a pas trop de risques par rapport à ça. Après, vous allez peut-être découvrir un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'il faut se couvrir un petit peu financièrement. Quoi. Voilà. Au lieu d'attaquer tout de suite sur la baisse des tarifs, qui peut être... c'est très enfin, je vais vous dire comme ça, c'est très électoraliste. On peut le faire, mais c'est très électoraliste. Et moi, je n'aime pas trop les options électoralistes. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est le jour où je partirai, d'avoir un service qui marche, et puis que le jour où on viendra me rechercher dans 20 ans ou 30 ans, on ne me dise pas que j'ai mal géré le service. Voilà. Si je ne suis pas élu dans quelques années, ben, il y en a d'autres qui seront élus qui seront meilleurs que moi. Hein ? Donc on dépasse un peu ça quand même.
Autre argument, retour en gestion publique, quelquefois des difficultés. Comment ? Oui, donc retour en gestion publique, quelquefois des difficultés à trouver du personnel qualifié, cadre, qui ne resterait pas sur place. C'est un autre argument.
J'ai presque répondu là-dessus. Là-dessus, on n'a plus de soucis. Je vais vous dire tout ce qui embauche. Nous, sur notre régie, on embauche maintenant pratiquement un agent sur deux qui vient du secteur privé. C'est-à-dire qu'on a une vraie demande aujourd'hui. Et je peux comprendre les salariés de ces entreprises, quel que soit le niveau. Hein, parce qu'il y a une vraie pression sur l'encadrement aussi. Moi, je rencontre des cadres de chez Veolia ou de la Lunaise. Hein, c'est exactement la même chose. Il y a des heures aujourd'hui chez ces délégataires qui ne sont pas simples pour tout le monde. Je peux vous assurer, ils sont en train de gérer les entreprises comme les autres. On a eu une gestion assez paternaliste. Hein, je ne sais pas si c'est le bon terme. Je m'autorise à le dire, monsieur le représentant de Veolia. Cette gestion un peu paternaliste, qui était une gestion hein, de relations basée beaucoup sur l'humain, qui l'est beaucoup moins depuis quelques... En tout cas, c'est comme ça que ça me remonte les informations. Donc je ne pense pas qu'il y ait de contraintes par rapport à ça. Voilà. Vous n'aurez pas de contraintes pour pouvoir embaucher du personnel. Et puis en plus, les écoles publiques sortent encore des ingénieurs. Hein, nous n'avons pas fermé toutes les écoles publiques de France. Voilà. Pas de souci là-dessus.
Je veux revenir sur ce qui est la mutualisation des moyens, notamment techniques. Aussi, une des craintes, parfois au niveau des collectivités, c'est lors de... problèmes ou de régler justement des problèmes qui nécessitent de gros moyens, de ne pas pouvoir s'en doter, en disant presque qu'il faut avoir une couverture quasi nationale pour disposer de ces moyens. Là, on parle de pouvoir se doter d'unités mobiles d'hydratation, de camions très spécialisés qui coûtent des centaines de millions pour pouvoir aller curer dans certaines conditions, etc. Tout à l'heure, vous disiez, bon, il faut se doter autant que possible, à chaque échelle où on est, ben, voilà, de mettre en moyen pour pouvoir se doter du matériel nécessaire. Est-ce qu'il y a un matériel qu'on ne pourrait pas avoir, que des collectivités, quelle que soit leur taille, qui viennent en régie, se trouveraient, je veux dire, en difficulté s'ils ne l'avaient pas?
Alors, deux choses. Vous regarderez sur votre ville, la dernière fois, vous avez eu un gros pépin. Il n'y en a pas. Il y a très peu de gros pépins sur l'eau. Très, très peu. Alors, ça fait l'actualité. Ça fait l'actualité. Parce que coupure d'eau, une mauvaise qualité d'eau, ça fait la une de la presse. Hein? Ce qui est légitime. On est sur de l'eau indispensable. Combien de gros pépins en France? Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous a dit qu'il y avait une régie qui n'avait pas réussi à alimenter en eau quelqu'un? Non. Jamais, personne. Il y a des aspects ponctuels sur un certain nombre de choses. Hein, une pollution sur votre source d'alimentation, quelque chose qui n'est pas bien nettoyé, mais globalement, je l'ai répété tout à l'heure, l'eau est le produit le plus contrôlé de France. Hein. Je vais faire en bouteille, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Hein. Ceux qui boivent de l'eau en bouteille et puis qui ne boivent pas de l'eau de robinet, qui continuent à manger des tomates qui viennent d'Espagne, je leur propose d'arrêter les tomates et de se mettre aux eaux du robinet. Hein. Donc, pour dire, hein, contrôle des produits alimentaires qui peuvent arriver. Hein. Voilà. Sur le reste, j'allais presque dire, en termes de provocation, vous avez besoin d'un matériel. Mais je peux vous assurer que vous allez téléphoner à un certain nombre d'entreprises, y compris du service de l'eau, dans les heures qui suivent, ils vous les amèneront. Je vous ai dit tout à l'heure que les délégataires, aujourd'hui, ont changé de stratégie par rapport à ça. Et donc, si à un moment, il y a besoin d'un matériel spécifique qui coûte X milliers d'euros, bien sûr, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Mais surtout, ne l'achetez pas. Allez le louer. Et vous allez avoir plein de gens qui vont venir vous louer des trucs. Vous allez voir, il n'y a aucun souci. Moi, je refais une station pour 6,5 millions d'euros. J'ai eu 4 offres. J'ai eu 4 offres d'entreprises qui sont venues et on a négocié fortement. Et celui qui a eu le marché, il était content d'avoir le marché. Oui. Donc, aucune inquiétude par rapport à... C'est ça qu'il faut. Mais ça, c'est votre personnel. Je reviens à votre personnel qui va vous dire ça, il faut l'acheter. Ça, il ne faut pas l'acheter. Dans un premier temps, est-ce qu'il faut aller acheter une pelleteuse pour pouvoir creuser des trous? Vous n'avez pas d'entreprise de travaux publics ici? Il n'y a personne qui fait de l'astreinte. Je vous rappelle que les travaux publics pour le gaz, GRDF, il y a longtemps qu'ils n'ont plus de pelleteuse. Hein. Donc ils ont des entreprises de travaux publics qui ont un contrat avec eux d'assistance d'astreinte et qui se déplacent. En plus, c'est même minuté. Là, c'est même plus de l'eau. Hein. C'est X minutes dans. Il faut amener la pelleteuse au-dessus du tuyau de gaz pour pouvoir creuser, pour pouvoir. Donc vous prenez la même contrat avec l'entreprise, sa pelleteuse, il va la mettre à disposition pour GRDF, il va la mettre à disposition pour l'eau, il va la mettre à disposition pour EDF, puis ça vous coûtera trois fois rien. Oui, n'investissez pas sur des choses que vous considérez ne pas avoir investi. Mais ça, c'est votre gestion, c'est la gestion au quotidien. Donc il n'y a aucune inquiétude par rapport à ça. Non, il n'y a pas de matériel spécifique qui arrive de je ne sais pas où. Non, aucune contrainte. Non, ça se passe très très bien. La gestion de l'eau et de l'assainissement, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Moi, j'y arrive, donc, pour vous dire. Ah ouais, non, mais attendez, on sait faire.
Merci. Bon, il reste une dizaine de minutes. Avant de lire la dernière question, là, qui est assez dense, une question aussi sur le... comment, l'argumentaire, hein, gestion publique ou délégataire au privé. C'est la question de la transparence. Transparence du délégataire, c'est effectivement un gros problème. Alors la solution, et qui a l'air de satisfaire beaucoup d'élus, c'est la création d'une société dédiée. Que peut-on en penser?
On est dans une amélioration quotidienne des contrats. Hein. C'est clair. Le législateur, il y a actuellement eu l'abus des deux côtés. Quand il y a abus, il y a des deux côtés. Il y en a qui donnent, il y en a qui reçoivent. Hein ? On est quand même bien d'accord. Donc il y a eu des abus, donc ce qui fait que les contrats sont de plus en plus contraignants. C'est vrai. Parce que le législateur a amené, et nous on a poussé sur cette transparence, les associations de consommateurs ont fortement poussé sur les contrats, etc. Ça bouge, les lignes bougent par rapport à ça. Et donc, une des solutions maintenant qui sont proposées, c'est de dire dans le cadre de la transparence, on va vous créer une structure local qui permettra de contrôler l'ensemble des comptes. Oui, ça améliore, si vous avez des experts comptables, vous savez faire. Voilà, je reprends toujours mes exemples de compteurs d'eau. Regardez le prix du compteur d'eau que vous payez, le prix du compteur d'eau que va payer la société, ce qui est normal. Vous en avez acheté 500 et eux, ils en ont acheté, je sais pas combien, vous en achetez 1 million par an, peut-être pas 300 000, 700 000. Vous imaginez bien que le prix qu'ils ont acheté à 500 000, ils ne vont pas vous le faire à vous à 500 000. Donc voilà, donc il suffit d'avoir une société qui l'ont acheté, ils vous font une facture et ils savent faire. Mais c'est du légal ce que je suis en train de dire, hein, qu'on se comprenne. Et en plus, c'est normal. La société, elle n'a pas acheté des compteurs pour vous faire plaisir. Elle a acheté des compteurs pour répondre aux besoins et il faut qu'elle marche dessus. Hein, on n'est pas chez les bisounours là. Hein. On est sur un conseil d'administration avec un chef, des chefs d'entreprise qui ont un taux de rentabilité à avoir. Et si le patron de chez Veolia ne fait pas son taux de rentabilité, il saute. Il saute. Voilà, je veux dire, c'est clair. Donc voilà, on en est là. Donc c'est comme ça. Donc je pense que la société n'amène pas obligatoirement à des choses. Ça améliore, mais la meilleure des sociétés, c'est quand même la vôtre, hein, c'est quand même la collectivité. Il y a un autre, c'était dit, parce que je pense que ça rassure les élus, sur tout ce qui est le risque sanitaire, environnemental et pénal. Là, je peux vous assurer que vous transférez rien du tout. C'est pas vrai. Le risque, c'est l'élu, c'est la collectivité qui le porte. Il n'y a pas un contrat qui marque que le risque pénal est transféré. Donc ça veut dire que si un jour vous empoisonnez quelqu'un, alors le délégataire, il va être aussi dedans, malheureusement, et ça sera souvent pas celui qui sera responsable qui sera dedans, hein, souvent. Hein. Mais vous serez dedans aussi. Hein. À vous déléguer pas la responsabilité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous ne déléguez aucune responsabilité. Vous déléguez pas comme un maire délègue un adjoint là. Hein. Vous déléguez pas la responsabilité. Donc vous gardez toute votre responsabilité. Alors vous êtes un peu couvert parce que le jour où il y a quelque chose, en général, c'est pas le maire qui est devant. C'est le directeur du site à qui on envoie pour aller expliquer qu'il s'est passé quelque chose de mauvais. C'est vrai que ça vous protège un peu. Hein. D'après, on est élu pour quoi? On est élu que pour aller serrer les rubans d'inauguration ou on est là aussi pour aller assurer de temps en temps quand ça se passe mal hein. Ben voilà, oui, moi de temps en temps ça se passe pas bien. Hein. Puis de temps en temps je suis même convoqué par le personnel qui m'engueule. Hein. Oui, comme il engueule le directeur du site de Veolia ici. Ben, il vous engueule, le personnel vous engueulera de temps en temps. Hein. Oui, mais c'est normal, c'est la vie, ça s'appelle ça. Il hein, faut savoir ce qu'on veut.
Alors, il y a une question en deux parties, ce sera peut-être la dernière, à moins que... Oui. Bon, donc je lis d'abord ces questions. Une première partie qui est plutôt environnementale. Donc l'État détruit des petits barrages, par exemple au niveau des moulins. Il y a aussi donc, la pollution des sols, la pollution des nappes. Comment intervenir en amont? Bon.
Ah, alors je vous le fais très rapide puisque les petits barrages, c'est une vraie discussion. Hein. On est confronté à deux solutions, parce que c'est le SDAGE, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est la gestion du grand cycle de l'eau. Hein. Là on est sur la gestion du ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau. Le petit cycle de l'eau, c'est l'alimentation, l'assainissement. Le grand cycle d'eau, c'est les cours d'eau, ça s'évapore, ça remonte et ça redescend. Hein, je fais très rapide. Là, on est sur le grand cycle de l'eau. Il y a un débat aujourd'hui sur le fait de dire que la continuité environnementale écologique est bloquée par les barrages. En plus, les barrages ont un phénomène de réchauffement de l'eau, c'est-à-dire que vous stagnez l'eau d'une façon plus importante, ce qui fait que vous avez une augmentation de la température de l'eau qui a des conséquences sur l'aspect environnemental, l'aspect écologique de l'eau. Donc, ce n'est pas l'État hein, qui décide ça. Hein. Non, c'est pas vrai. L'État est un acteur à l'intérieur de certains nombre de choses, mais c'est des discussions sur la suppression. Alors, l'État nous dit aujourd'hui qu'il faut supprimer les barrages qui sont inutiles. Parce que c'est vrai qu'il reste des barrages qui ne servent plus à rien. Il y avait une petite centrale hydraulique, elle ne marche plus aujourd'hui, elles ont été faites des fois pour de l'irrigation agricole qui n'existe plus, etc. Donc la tendance aujourd'hui est plutôt d'arracher les barrages d'une façon importante. Alors, vous savez, c'est comme tout partout, il y a le phénomène de balancier, il y a 20 ans ou 30 ans, on mettait des barrages partout, et puis maintenant, il ne faut plus mettre des barrages nulle part. Je pense que ça va finir, vous savez, c'est comme les pendules franc-comtoises, ça va finir par arriver au milieu. Voilà, je pense, oui. Mais, et puis la deuxième, c'est...
Donc, deux réseaux d'eau, et puis le traitement des stations d'épuration.
Ah, les deux réseaux d'eau. Alors, c'est ça, c'est la récupération d'eau aussi, en général, c'est pas mal, ça. Alors je vais vous donner deux discours. Le gestionnaire du réseau d'eau, il n'aime pas les récupérateurs d'eau. Et puis l'environnementaliste, il aime bien les récupérateurs d'eau. Donc il faut trouver un équilibre là-dedans. Parce que si vous mettez beaucoup de récupérateurs d'eau, ça veut dire que vos tuyaux d'eau, il faut les garder en les mêmes diamètres, il faut garder les mêmes alimentations, parce que le jour où il ne pleut pas pendant un mois et demi ou deux mois, ça peut arriver, hein, il n'y a pas si longtemps, on a eu des sécheresses. Et que toutes les cuves sont vides, il faut continuer à alimenter, tout particulièrement les zones agricoles. Je peux vous assurer, quand vous avez des récupérateurs d'eau dans une ferme qui a 50 vaches comme chez nous, et qu'ils ont quelques dizaines de mètres cubes, et du jour au lendemain, il n'y a plus d'eau dedans, et qu'il faut alimenter pour donner de l'eau à 50 vaches, vous avez plutôt intérêt à avoir des tuyaux d'eau qui crachent pour pouvoir alimenter tout le monde, quoi. Donc ça veut dire qu'en tant qu'opérateur, vous êtes obligé de garder la même capacité d'intervention parce qu'il faut donner de l'eau à tout le monde, y compris sur des périodes de sécheresse qui sont peu importantes. À l'inverse, c'est quand même bien de récupérer de l'eau pour éviter de la perdre. Voilà. Donc oui, il faut un certain nombre de choses, il faudra équilibrer tout ça. Après, on a un problème aussi d'assainissement. C'est-à-dire que quelque part, vous ne facturez pas, quand vous facturez plus l'eau, mais que vous rejetez quand même de l'eau dans le réseau d'assainissement, vous diminuez les recettes en termes d'assainissement tout en maintenant le même niveau de pollution. C'est un vrai débat hein, sur ça. C'est l'UH, on a du mal à, franchement, à le trancher d'une façon importante, quoi. Là aussi, hein, il va falloir qu'on avance pas à pas pour équilibrer les choses. Et puis un deuxième réseau, ça se fait de temps en temps. À Paris, ils ont un deuxième réseau. Entretenez déjà votre premier. Hein. Vous gardez vos taux de fuite, en zone rurale, des fois, ça descend à 50%. Hein. En zone rurale, on a un mètre cube qui sort de la source et qui n'arrive pas au robinet. Hein. Si vous avez quelques millions, mettez-les déjà dans l'entretien de votre réseau. Et puis, si vraiment il vous en reste, faites un deuxième réseau. Mais quand vous aurez réglé le problème du premier, je pense que vous aurez déjà passé quelques dizaines d'années. Quoi.
Peut-être rapidement avant la dernière question, là il est question aussi du traitement des boues des stations d'épuration.
Ah.
Donc soit par épandage ou soit par combustion.
Alors la meilleure solution, alors tout le monde est d'accord là-dessus, hein, c'est l'épandage agricole, à une condition, c'est que vous ayez contrôlé vos boues. Hein, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si vous mettez dans les effluents, vous contrôlez ce que vous mettez dans les effluents. Vous allez concentrer dans vos bouts, hein, j'explique parce que toujours. Vous amenez vos effluents, vous faites tourner votre station, vous sortez vos bouts, vous enlevez toute la pollution, vous la concentrez à l'intérieur de vos bouts. Nous, on fait de la méthanisation depuis 40 ans. Hein. Qui découvre la méthanisation, nous, ça fait 40 ans qu'on fait de la méthanisation avec les bouts. Hein. Donc, on produit du gaz, on produit de l'électricité et on auto-alimente notre station de traitement des eaux usées avec le méthane, hein, pratiquement. Hein. Donc, oui. Donc, là aussi, hein, c'est de la réflexion qui porte. Il faut, là aussi, liaison avec les agriculteurs, dialogue avec les agriculteurs, contrôle des terrains avant, contrôle de toutes les boues, traçabilité de toutes les boues, contrôle après des terrains et un épandage le plus large possible pour éviter de concentrer dans un certain nombre d'endroits. On sait que nos boues ne posent pas de difficultés. La seule contrainte qu'il pourrait y avoir, c'est l'accumulation chaque année hein, de certain nombre de métaux lourds sur les mêmes terrains pendant des dizaines et des dizaines d'années qui amènerait à avoir un certain nombre de difficultés. Aujourd'hui, c'est la meilleure solution. L'incinération, ben oui, vous pouvez incinérer, sauf que vos métaux lourds, vous ne les avez pas incinérés. Hein. On est bien d'accord. On concentre une nouvelle fois la pollution. Hein. Vous incinérez vos boues, vous enlevez l'eau. Hein. Quand vous avez vous incinérez de l'eau des bouts de station qui sont quelquefois qui contiennent 30 ou 40% d'eau, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure solution de mettre du gaz ou des ordures ménagères pour brûler de l'eau. Hein. Vous faites de la vapeur d'eau, ça s'appelle ça. Hein. Donc l'incinération. Alors nous, on a sortie agricole pratiquement partout et on a une sortie de secours sur l'incinérateur. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, on le fait fonctionner régulièrement pour que l'incinération continue à marcher. C'est-à-dire que si on a des boues qui sont non conformes, on a un engagement des agriculteurs de les emmener à l'incinération, de ne pas les épandre. Voilà. Il faut aussi cette sortie de secours, et ça rassure tout le monde aussi. Là, hein. Mais les boues, pour l'instant, c'est surtout de supprimer les métaux, enfin, tout ce qui est dedans. Hein. Alors après, hein, vous ne m'avez pas posé la question, qu'est-ce qu'il y a comme produit, y compris dans l'eau, tout ce qui est antibiotiques, quelles sont les conséquences sur les antibiotiques. On cherche, on est en train de travailler par rapport à ça. Vous ne m'avez pas posé la question sur l'aluminium, aussi, là aussi, il y a suspicion de maladies sur l'aluminium, etc. Est-ce que les traitements d'eau avec l'aluminium sont bons ou pas? Pour l'instant, c'est des suspicions. En tout cas, il faut qu'on continue à chercher pour avoir le moins d'aluminium à l'intérieur des produits. Là aussi, hein, l'alimentation à partir de l'eau du robinet d'aluminium, c'est trois fois rien par rapport au reste de votre alimentation. Hein. Je vous dis comme ça, un jour vous regarderez ce qu'il y a dans les pots de yaourt pour les bébés. Hein. Quand je parlais des tomates d'Espagne, regardez un petit peu dans les petits pots ce qui traîne de temps en temps. Voilà. Là aussi, vous allez avoir quelques surprises.
Question là-bas.
Merci de me donner la parole. Une remarque en général et puis une question. La remarque en général, c'est que moi, c'est très intéressant le débat et ce serait peut-être surprenant, mais je partage énormément de choses qui ont été dites.
Vous devriez vous présenter parce que je ne suis pas sûr que...
Voilà.
C'est pas toujours les filles de se rencontrer. Donc, je partage évidemment toutes les lectures du critère de l'université, l'éthique, la gouvernance, l'emploi local, etc., sur la nécessité d'un reconquête de la qualité de l'eau, sur une tarification sociale, etc. Mais juste que je ne vous avoue toujours pas comprendre pourquoi ces sujets-là seraient antagonistes avec une délégation de services publics. Encore une fois, aujourd'hui, vous êtes un élu très impliqué, je m'en félicite. J'en connais qui sont aussi très impliqués alors qu'ils ont un délégataire et qui, pour autant, ont une vision de long terme, investir dans l'avenir, ont une vision de proximité, nous impose de l'emploi local, de la proximité, de l'insertion, etc. Pour moi, c'est ce qui me gêne dans ce débat, c'est très intéressant, mais encore une fois, il me semble qu'on oppose des choses qui ne s'opposent pas sans. Je prends un exemple, vous parlez de la mère de la part fixe. La part fixe, elle est fixée par les contrats, donc quelque part, elle est fixée d'un commun accord entre le délégataire et la collectivité. Sachez qu'il y a des parts fixes, notamment d'assainissement sur les périmètres voisins, qui sont excessivement chers sur les régies. Voilà, donc c'est vraiment un choix de la collectivité, encore une fois, complètement indépendant. Enfin, le mode de tarification, vous savez, que ce soit en régime ou en expérience. C'est un peu ma remarque générale, mais encore une fois, je partage l'objectif de fond. De bureaux d'enquête, d'avenir, etc. Je suis aussi un passionné de l'administration. Donc, ma question, elle est par rapport au contrat, parce que ce qui différencie le droit vraiment la DSP de la régie, c'est la notion de contrat avec la complémentarité des contrats modernes, les pénalités, les engagements chiffrés, etc. Vous parliez tout à l'heure, c'est intéressant, le fait que vous proposiez maintenant d'avoir une régie qui soit quelque peu pareille, là aussi, quelque part contractualisée avec son client collectivité. La question que je me pose, c'est aujourd'hui, moi, quand je respecte pas mes engagements, je sais ce qui se passe. Je suis sanctionné, j'ai une pénalité, etc. Demain, si le régime ne respecte pas ses engagements, qu'est-ce qui se passe?
Je réponds très vite là, pour la part fixe. Ce qu'on a dit pour la part fixe tout à l'heure, c'est simplement parce que c'est ce que l'on a lu dans les propositions d'objectifs pour le prochain cahier des charges. Hein, donc 30%, qui est vraiment le minimum syndical. Voilà, c'est tout. Donc, effectivement, c'est la collectivité peut très bien, mais enfin, moi, c'est ce qu'elle a dit. Donc voilà, c'est ce que je ne fais que reprendre ce qui était dans les propositions d'objectifs. Voilà.
Alors déjà, si vous êtes passionné, je pense que si un jour on vient en régie, on vous proposera le poste de directeur. Vous savez bien que je ne dis pas en boutade. On recrute. Voilà. J'allais dire, si véritablement, parce que vous existez quand même depuis 130 ou 140 ans, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? C'est-à-dire, quand vous renouvelez les contrats et que vous baissez les tarifs de 20 à 30%, ça veut dire que depuis des années, vous surfacturez la collectivité avec son accord. Avec son accord. Sans lui avoir jamais dit. Jamais vous avez averti la collectivité qu'il y avait de la surfacturation. Jamais j'ai vu un délégataire venir en disant on va baisser notre tarif. Jamais. C'est ça la différence que nous avons entre nous. Oui, bien entendu, on va fixer un certain nombre d'objectifs qui seront sûrement similaires. On est bien d'accord. On ne va pas inventer des choses, sur un certain nombre de points. Mais nous le mettons en application sur un certain nombre d'éléments. Et le dernier point. Moi, si je ne remplis pas ma mission, tous les 6 ans, j'ai le vote des électeurs. Non. Vous êtes en train de me dire... Quelle est la sanction que vous avez? Je réponds à votre...
Je ne parle pas de la sanction, il est élu.
Ah ben, c'est ça? Ah, mais attendez, la section... Attendez, si je ne gère pas bien... je peux vous assurer que si je ne gère pas bien l'eau et l'assainissement, et que j'augmente les tarifs de 20 ou 30%, je peux vous assurer que je pense qu'il y a quelques électeurs qui vont s'en souvenir en 2020. Hein. C'est ça notre sanction. La sanction des élus, c'est la démocratie. C'est la démocratie. C'est de dire... On ne vous remet pas là parce que vous n'avez pas été bon, vous n'avez pas su gérer notre collectivité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la sanction est exactement la même, y compris nous, notre sanction, je l'ai dit tout à l'heure, vous ne l'avez pas repris, c'est que c'est tous les ans que ça peut être remis en cause. Tous les ans. C'est-à-dire que si demain, je viens avoir, vous avez évoqué un dérapage. Enfin, un dérapage. Mais je peux vous assurer que si on fait un dérapage de 20 ou 30%, la collectivité va s'interroger, savoir si elle ne fait pas un appel à la délégation de service public. C'est-à-dire que nous, nous sommes révocables tout le temps. Vous, vous êtes révocables que tous les 12 ans. Ce n'est pas la même chose. Et y compris, vous couvrez, et ça, ça pose un vrai problème, vous couvrez plusieurs conseils municipaux de suite. C'est-à-dire que vous faites engager, mais ça, ce n'est pas de votre responsabilité, c'est la responsabilité des contrats. Hein. Vous engagez, une collectivité s'engage pour plusieurs mandats sans être sûr d'être réélu. Ça pose un vrai problème de démocratie. Ça veut dire que c'est un peu moins aujourd'hui, c'est 12 ans. Mais vous imaginez quand une collectivité engageait pendant 50 ans l'avenir de sa collectivité, il n'y a pas un élu qui était là au bout de 50 ans, hein, à part quelques-uns. Vous voyez ? Donc je pense que l'aspect démocratique contrôle, il est plutôt de notre côté. Mais vous avez bien entendu mon propos, et qui est quand même très mesuré. Et c'est pour ça qu'on veut continuer à travailler avec vous et qu'on aura intérêt aussi à faire avancer, parce que l'intérêt principal, c'est de nos concitoyens, y compris l'avenir de la planète. Je vais terminer là-dessus. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à travailler. Et on aura toujours besoin de vous sur un certain nombre de prestations. Ce que je veux dire, c'est que ce soit nous qui décidons. Et pour pouvoir décider, j'insiste par rapport à ça, il faut qu'on ait l'expertise. Nous n'avons pas l'expertise suffisante quand on est en délégation de service public. On peut l'obtenir, je pense que ça travaille par rapport à ça, mais on vous confie trop, moi c'est mon avis, hein, on vous confie trop le fait d'être sachant. On vous confie, la principale remarque que je vous fais, c'est ça. Mais ce n'est pas de votre responsabilité, hein, je le dis bien, c'est l'élu, c'est la responsabilité de l'élu. Hein, vous avez... Oui, mais vous savez bien que pour une bonne partie des collectivités, tout particulièrement les petites collectivités, il n'y a plus de contrôle. Enfin, il y a plein de collectivités comme ça. Mais ça s'améliore aussi, et on est à pousser par rapport à ça. Vous ne m'avez pas répondu sur la baisse des tarifs de 20 à 30%. Comment vous faites pour baisser les tarifs maintenant de 20 à 30%? Vous savez bien que les marges sur les anciens contrats, on le sait tous, étaient énormes.
Bon, je crois qu'on va arrêter là, hein, mais bon, pour redonner les chiffres.